Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une accélération de la vaccination, mais pas de passeport vaccinal obligatoire en France. Le Premier ministre y ferme la porte, défendant la liberté de chacun de se faire vacciner. Pas d'obligation donc, d'autant que les élus locaux témoignent d'un manque de doses et d'organisation. La réponse de l'ARS en Île-de-France dans ce journal.
Et puis nous nous interrogerons ensuite sur un passage à 32 heures de travail par semaine en temps de couvre-feu. La CGT et certains patrons le demandent.
J-1 avant l'investiture de Joe Biden aux États-Unis. Donald Trump en profite pour ce dernier jour pour annoncer une série de grâces présidentielles. Une centaine de personnes seraient concernées.
Et puis dans cette édition également, les manifestations de jeunes en Tunisie contre la crise économique et politique. Il y a encore eu des violences cette nuit à Tunis.
Nous entendrons aussi les derniers mots de Jean-Pierre Bacri sur notre antenne. En 2018, l'acteur et scénariste parlait du vieillissement, forcément embarrassant. Jean-Pierre Bacri est mort hier, il avait 69 ans. Dans un quart d'heure, le billet politique sur l'introduction d'une dose de proportionnelle pour élire les députés. Cette réforme n'aura pas lieu. Mais d'abord, cette mobilisation des professionnels de la culture aujourd'hui. À l'appel du premier syndicat du secteur, la CGT Spectacle. Des manifestations sont annoncées dans plusieurs villes de France, de Lyon à Bordeaux, de Lille à Marseille, de Quimper à Strasbourg et à Paris ce midi, avec la culture sacrifiée comme mot d'ordre. Car économiquement, le quotidien de certains artistes est ultra précaire. Au micro d'Isabelle Pasquier, la directrice du Musée d'art contemporain de Lyon, Isabelle Bertolotti en témoigne.
Ce qui se passe, c'est que les artistes, s'ils sont pas montrés, ne peuvent pas être déjà rémunérés. Malheureusement, ils bénéficient pas du statut des intermittents du spectacle, donc ils ont aucun revenu, ni chômage, ni rien. Et donc, ils se trouvent dans une situation de précarité extrême. Ce serait vraiment bien que les politiques se déplacent et viennent voir les conditions dans lesquelles on peut exposer les œuvres, les artistes. Là, ils se rendraient vraiment compte que c'est beaucoup plus sûr que dans des bus ou dans des zones commerciales qui sont beaucoup plus, là pour le coup, confrontées à ces problèmes de population ou surpopulation. C'est pas du tout le cas chez nous. Aujourd'hui, on est dans une totale incompréhension. On a pris des mesures conséquentes puisqu'on a absolument tous les gestes barrières qui permettraient à un public de venir dans des conditions de sécurité maximum. On peut même vendre des billets horodatés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de foule à l'entrée et c'est impossible.
Pour rouvrir les salles de spectacle, cinéma et musée en France, la question d'un passeport vaccinal est avancée depuis quelques jours maintenant, sorte de sésame prouvant la vaccination et donc minimisant le risque selon certains. Pour le moment toutefois, le Premier ministre y est clairement défavorable. Jean Castex le disait hier soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5.
Comment je peux expliquer aux Françaises et aux Français, au terme de débat, de discussion, que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire, c'est-à-dire l'étape antérieure, et que nous rendrions un passeport vaccinal obligatoire. Bon. Mais il y a surtout, je crois, une raison extrêmement pragmatique, qu'a d'ailleurs, je l'observe, également repris l'Organisation mondiale de la santé. On n'est pas certain, c'est une autre difficulté des vaccins, de la durée et de l'intensité avec laquelle ils protègent. Bon. Et donc il ne faudrait pas du coup que le passeport vaccinal soit une fausse protection. Donc que nous dit la communauté scientifique? Elle nous dit ce débat est prématuré.
Autre mise en garde d'ailleurs de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les vaccins. Si les pays riches ne le partagent pas avec les pays pauvres, ce serait un échec moral catastrophique. Actuellement sur la planète, 40 millions de personnes ont déjà été vaccinées. Israël fait toujours la course en tête. Sur le terrain en France maintenant, Jean Castex a promis d'accélérer encore la vaccination cette semaine. Elle a débuté hier pour les 75 ans et plus. Mais se pose toujours la question d'un manque de doses. Président de régions, de départements, maires de plus ou moins grosses communes, ils sont nombreux depuis ce week-end à s'interroger. Le gouvernement assure qu'il n'y a pas de stock caché, qu'il faut être patient, organisé et patient. Preuve de ce questionnement général, ce reportage de Tara Schlegel au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne, était notamment présent hier le premier vice-président de la région Île-de-France.
Il est venu en voisin. Othmane Nasrou est un proche de Valérie Pécresse. Il est aussi élu de Saint-Quentin en Yvelines. Et cela fait 3 mois, dit-il, que la présidente de région tend la main à l'État en vain.
Aujourd'hui, quand un centre de vaccination ouvre, on n'est pas forcément informé. On est à ce niveau d'articulation aujourd'hui, on le sait après coup. Donc ce sont souvent les maires et les territoires qui viennent vers nous demander de l'aide parce qu'on les laisse. Eh bien, tout organisé sur le plan logistique, trouver les professionnels de santé, aller chercher les doses de vaccins en quantité infinitésimale. Et donc tout ça est problématique parce que si on veut monter en puissance sur cette vaccination qui est aujourd'hui le seul moyen que nous avons de sortir de manière relativement pérenne de cette crise sanitaire, c'est la vaccination. Et donc la région va continuer d'accompagner les maires, les collectivités, les agglomérations. Mais il y a une colère d'un certain nombre d'élus locaux qui auraient préféré que les choses soient préparées, main dans la main, un peu plus en amont. Et aujourd'hui, à ce rythme-là, il faudra plus de 4 mois pour vacciner tous les plus de 75 ans en Île-de-France. Hein, c'est les chiffres que nous avons aujourd'hui à la région. Donc il va vraiment falloir qu'on accélère.
Dans l'agglomération, il faudrait vacciner 10 000 personnes âgées ou fragiles. L'Agence régionale de santé le sait. Elisabeth Sénéjou-Quentin travaille justement pour l'ARS dans la délégation des Yvelines et répond indirectement à la colère des élus régionaux.
La région a contribué pour le dépistage quand il y a eu des difficultés sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, sur la vaccination, c'est vrai qu'on va aussi plus près du territoire. La région Île-de-France, c'est une région qui est très mixte, qui est très diverse. Paris, c'est pas la même chose que Montigny ou la petite couronne parisienne. Donc c'était aussi important, je pense, que les élus locaux se saisissent du sujet. Après, ça n'enlève rien à la participation de la région sur l'ensemble de la crise Covid.
En attendant, le Vélodrome a reçu 850 doses de vaccins seulement pour cette première semaine.
L'agglomération de communes estime qu'il y a 10 000 personnes âgées et fragiles à vacciner sur son territoire. Pendant ce temps, un groupe pharmaceutique est fragilisé, Sanofi, en retard sur l'élaboration d'un vaccin et interpellé par ses salariés. Ils sont appelés à faire grève aujourd'hui pour de meilleurs salaires et contre des suppressions d'emplois en cours. Les salariés ont en effet appris ce week-end que 600 postes supplémentaires allaient être supprimés dans la recherche et le développement de médicaments chez Sanofi. La durée du temps de travail en question en ce moment en France, en tout cas avec le couvre-feu à 18h, la CGT propose au gouvernement d'abaisser cette durée du temps de travail de 35 à 32 heures par semaine. Pour certains patrons qui sont déjà passés à ces 32 heures, ce serait même l'occasion d'améliorer la vie des salariés et la qualité de travail. Voici quelques exemples avec Adrien Toffolet.
La PME lyonnaise IT Partner, spécialisée dans l'informatique, s'est lancée le 4 janvier dernier. L'ensemble des 50 salariés est passé à la semaine de 4 jours, à la grande satisfaction de tous et en premier son président Abdennour Ainsaba.
La première semaine, c'était un peu comme s'ils avaient posé un jour de RTT, donc ça semblait pas spécialement déroutant. Maintenant, la deuxième semaine, ils commencent à se rendre compte que le fait d'avoir tous ces jeudis, par exemple, ça amène à se dire qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là. Donc ils commencent davantage à apprécier cette transformation.
Mais avant, il a fallu repenser totalement l'organisation du travail avec les managers. Des journées de 8 heures au lieu de 7, partage des responsabilités, davantage de communication et de travail collectif, quelques embauches. Seul point négatif, le gel des salaires en 2021, sauf pour les plus bas. Aucune concession en revanche chez les 800 salariés du groupe rhodanien LDLC. Eux vont adopter la semaine de 4 jours lundi prochain. Coût de l'opération, 1 million d'euros. Mais c'est un pari sur des bénéfices à venir pour Laurent de la Clergerie, son fondateur.
Quand on se pose dessus et qu'on le pose sur la table, et on se dit mais finalement si, ça doit marcher. Parce que ça coûte pas si cher, parce qu'il y a des heures qui sont pas utilisées. Le vendredi après-midi, par exemple, dans des bureaux, c'est pas le jour le plus productif, parce qu'ils vont pas surfer pour réfléchir à leurs futures vacances. Enfin, ils vont gagner un petit peu de tous ces temps horaires où on n'est pas à 100% dans le travail. Et ça, parce qu'ils sont impliqués dans l'entreprise. Et qu'on sait que, cognitivement, il y a plein de choses qui nous apprennent qu'un salarié naturellement plus reposé et plus efficace. Ça laisse penser tout ça qu'au final, il n'y a pas de raison d'y perdre.
D'autant qu'avec le Covid, assure-t-il, la période est propice aux réorganisations du travail, même à contre-courant.
Adrien Toffolet pour France Culture. Édouard Balladur devant la Cour de justice de la République aujourd'hui. Plus de 25 ans après la campagne présidentielle de 1995, l'ancien Premier ministre est jugé pour complicité d'abus de biens sociaux. Idem pour son ancien ministre de la Défense, François Léotard, dont la présence cet après-midi est toutefois incertaine pour des questions de santé. Le dossier est lié aux soupçons de financement occulte de la campagne. C'est l'un des volets de l'affaire Karachi.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La transition s'annonce compliqué entre Donald Trump et Joe Biden à la veille de l'investiture.
Le président sortant a en effet annoncé hier soir la réouverture des frontières américaines pour les ressortissants européens, pour les Britanniques, Irlandais et Brésiliens. Mais dans la foulée, quelques minutes plus tard, l'équipe du président élu, Joe Biden, l'a contredit. Les frontières des États-Unis resteront bien fermées jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie de Covid-19. Transition et dialogue visiblement très compliqués donc, et à une journée de l'investiture, Donald Trump, président sortant, doit annoncer aujourd'hui une série de grâces présidentielles. Franck Madvon.
Les présidents américains ont souvent profité de leurs dernières heures à la Maison-Blanche pour accorder des grâces. Il s'agit généralement de condamnés dont le profil a fait l'objet d'un examen attentif. Mais jusqu'ici, Donald Trump a plutôt utilisé la grâce présidentielle pour des alliés ou pour séduire son électorat le plus à droite. En fin d'année, des anciens conseillers en ont bénéficié. 3 mises en cause dans l'enquête sur l'ingérence russe lors de l'élection de 2016. Trump a aussi gracié 4 anciens agents de sécurité qui avaient tué des Irakiens. Cette fois encore, ces choix pourraient provoquer l'indignation. Des avocats, des lobbyistes ont fait le siège de la Maison-Blanche ces dernières semaines pour plaider la cause de leurs clients. La liste finale aurait été établi par Donald Trump et ses proches ce week-end. Le rappeur Lil Wayne, arrêté en possession d'une arme à feu, ou Julian Assange pourraient y figurer. Mais on se demande surtout si Trump va gracier des proches, voire lui-même. Il l'a envisagé, mais cet acte inédit entraînerait certainement des recours.
En Italie, le gouvernement pourrait voler en éclats aujourd'hui. En tout cas, le Sénat organise ce matin un vote de confiance crucial pour l'avenir de l'équipe de Giuseppe Conte, qui doit trouver une nouvelle majorité. C'était chose faite hier à la Chambre des députés. C'est donc au Sénat de le faire aujourd'hui. Cela fait 4 nuits consécutives que de jeunes Tunisiens se mobilisent un peu partout dans leur pays. Le point de départ a été les 10 ans de la Révolution, qu'ils n'ont pas pu commémorer en fin de semaine dernière. Depuis, ces manifestations donnent lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Souvent, ces jeunes sont mineurs. Ils subissent la crise économique et sociale en Tunisie, crise accentuée par la pandémie. C'est un reportage dans un quartier sensible de Tunis, tourné hier soir par Maureen Mercier.
Des dizaines de jeunes jettent des pierres sur la police qui réplique à coups de gaz lacrymogène et charge. Nour se dépêche de rentrer chez lui.
On n'a pas trouvé de solution pour les jeunes. Il n'y a pas de travail. Dès que Ben Ali était dégagé, on a croyé qu'on va trouver des solutions, mais rien n'a changé.
Oui, Nour a fait la révolution, mais non, jamais il n'ira rejoindre ces jeunes qui jettent de plus belles des pierres.
Je sens juste des voleurs, c'est pour cela qu'ils font ça. Vous voyez, les boutiques sont fermées. Ils veulent les casser, ils veulent les voler. Le but, c'est de voler, de casser.
Ce qui a changé par rapport à la révolution, la frustration, la colère des jeunes est toujours présente, mais aujourd'hui, pas de revendications politiques. Et c'est justement ce qui inquiète Walid, autre habitant de la cité.
Bien sûr, je suis triste. Les jeunes ne trouvent pas la chance dans ce pays. Donc, ils deviennent des gangsters.
Ces jeunes qu'il appelle gangsters, pour lui, ce sont en fait des victimes.
C'est le système qui nous donne cette génération. C'est clair, ce sont des adolescents. Mais ils comprennent que le système ne réussit pas. Ils s'expriment par les bagarres, sans objectif, qu'ils frappent le police.
Plus de 700 jeunes, la plupart mineurs, ont été arrêtés en 4 jours. L'ONG Amnesty International dénonce un usage excessif de la force.
C'était Maureen Mercier à Tunis pour France Culture. Il est 8h13 et nous terminons ce journal sans oublier le plus tendre des râleurs qui s'en est allé hier. Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Il avait le sens de la fête et le goût des autres, écrit Emmanuel Macron. Un hommage et un clin d'œil évidemment à deux de ses films. Film du scénariste et comédien aux 5 Césars. Dans l'un de ses derniers longs métrages qu'il signait là encore avec sa partenaire Agnès Jaoui, dans Place Publique en 2018, Jean-Pierre Bacri jouait Castro, un animateur télé sur le déclin après avoir connu la gloire de l'audimat. Le comédien était venu parler de ce rôle dans les matins du samedi au micro de Caroline Brouet sur France Culture, venu parler du vieillissement, du temps qui passe.
Les gens qui disent que c'était mieux avant, ils terminent pas leur phrase en fait. Et ce qu'ils veulent dire, c'est c'était mieux avant parce que j'étais jeune. Je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que provoque le vieillissement. C'est qu'à un moment, on se sent exilé, comme je vous dis, on se sent rejetés, et ils ne peuvent pas supporter de ne plus être dans tout et dans ce qui bouillonne. Voilà, donc c'était mieux avant parce que j'étais plus jeune. Voilà. Et ce qui est commun entre Castro et moi, c'est que à un moment, on s'aperçoit qu'on vieillit et que c'est une aventure incroyable, quoi. On est en Haïti dans la jeunesse, on passe son temps à être jeune, et puis un jour, on est exilé de ce pays. Un jour, et l'exil, c'est toujours dur, donc tout d'un coup, on vous explique que vous n'êtes plus dans le coup, enfin que et puis votre miroir vous l'explique. Ah ben on le ressent, je veux dire tout le monde vieillit. À un certain moment, vous prenez conscience que vous vous modifiez, que le regard sur vous se modifie, que vous perdez ces jeux de séduction qui vous amusaient tellement avec les jeunes femmes. Eh bien c'est terminé. Vous Vous regardez vieillir, vous voyez les plis, les choses qui tombent de votre menton, de tout. Enfin, vous êtes obligé de le constater. Ce que fait Castro, et c'est ce que font la plupart des gens, qui vous disent que qu'ils ont une sorte de sérénité qui leur est tombée dessus à la vieillesse, mais on sait très bien que c'est pas ça, c'est un bouleversement terrible, et on est obligé de le remarquer et d'en être affecté pendant un moment.
La voix de Jean-Pierre Bacri, interrogé par Caroline Brouille en 2018, entretien à retrouver, à réécouter évidemment sur notre site franceculture.fr, et vous y trouverez aussi un article sur cet attachant et exigeant bougon qu'était Jean-Pierre Bacri. La météo de ce mardi, Guillaume, ce sera un temps pluvieux au nord, des éclaircies au sud et des températures toujours fraîches, 2 degrés à Bordeaux, 5 sous le soleil marseillais et la grisaille parisienne, 10 degrés à Brest.
Merci Clara Lecoq-Réal, à 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, nous serons avec le juge des enfants de Bobigny, Édouard Durand. On va évoquer la protection des mineurs suite à un hashtag que l'on a beaucoup vu ce week-end sur les réseaux sociaux, MeToo. Un 16 dans 30 minutes environ, nous retrouverons nos camarades avec Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mostyn-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte qui donnera la parole à un artiste. Et puis Frédéric Seyss, votre billet politique ce matin, il est question de la proportionnelle.
Oui, l'élection des députés à la proportionnelle censée mieux garantir le pluralisme, mieux représenter les petits partis, souvent promise et jamais tenue. On va voir pourquoi.